France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Questions du soir, 1h30 de débat, d'analyse, de découverte. À 19h, dans l'actualité des idées et de la recherche, nous parlerons du mythe de l'effondrement de la civilisation maya. Mais d'abord, c'est l'heure du débat dans Questions du soir. Fin du procès Sarkozy sur les financements libyens, condamnation en première instance de Marine Le Pen pour le détournement de 4 millions d'euros au Parlement européen. Les affaires politico-financières ont marqué l'actualité de ces dernières semaines. Ces affaires suscite des débats parfois contradictoires sur la corruption généralisée des élus, sur un éventuel gouvernement des juges, sur la présomption d'innocence, sur la transparence de la vie publique. Il faut dire que les affaires se suivent et se multiplient. Depuis 2017, 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires. Aujourd'hui encore, l'annonce a été faite il y a quelques heures à peine, vous l'avez peut-être entendu dans le journal, le maire de Lyon, écologiste Grégory Doucet, a été mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Alors que signifie la multiplication de ces enquêtes et de ces affaires ? S'agit-il d'un mal français ou la démonstration d'une lutte qui fonctionne, d'une lutte contre la corruption qui fonctionne ? La France est-elle à l'inverse, la mauvaise élève de l'Europe en la matière? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Avec nous pour en parler, Patrick Lefasse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Transparency International France. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés se trouve Anna Bonaloumé.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes journaliste, docteur en philosophie à l'ENS Paris, chercheuse associée à Seldon Conseil. Et vous aviez publié en 2022 Un mois avec un populiste. Et puis enfin, Christophe De Vogde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de rhétorique politique, président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique. Et vous aviez publié « Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen ». C'était publié l'année dernière aux éditions Fondapol. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Un débat, nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide pour financer votre campagne de 2007 ?
Quelle indignité ! C'est une honte.
On n'a toujours pas d'idée de combien, comment, à quoi ça a été utilisé. On a passé beaucoup de temps aussi à démontrer que le pacte de corruption n'existe pas.
Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligibles à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Mmh. Ah bon ? Et pourquoi pas le reste ?
C'est une question qui concerne les assistants parlementaires au Parlement européen qui se fait, lui, sur la base de la dénonciation. Mais je suis le seul qui a bénéficié d'une perquisition à 7h du matin.
J'ai porté une exigence morale. À cette exigence morale, et aux règles de fonctionnement, nous n'avons jamais manqué. Vous entendez ça ? Nous n'avons jamais manqué.
Voilà, petit montage de notre réalisateur François Richer. On vient d'entendre les voix très identifiables de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou. Tous ont été impliqués ou sont encore impliqués dans des affaires d'atteinte à la probité ou de détournement de fonds publics. Une première chose peut-être, Christophe De Vogde, est-ce que l'on peut dire que ces affaires touchent l'ensemble du spectre politique de la même manière ?
Écoutez, d'abord, merci pour cette présentation très, très équilibrée politiquement. On dirait bien avoir votre entrée en matière et votre belle introduction. Et puis, vous avez mentionné le cas du maire de Lyon de ce matin. Donc, en effet, il semblerait qu'il y ait une offensive tous azimuts sur ces thèmes. Et essayer de comprendre ce que ça veut dire, évidemment, pour notre démocratie, les rapports entre pouvoirs... si la justice est un pouvoir, parce qu'officiellement en France c'est une autorité, toutes ces questions qui sont des questions à la fois, je dirais, d'actualité immédiate, c'est le mot qu'on puisse dire, vous êtes là en plein dedans, on est en plein dedans, mais aussi qui posent des questions de philosophie politique, je parle sous le contrôle de ma collègue italienne, sur justement qu'est-ce que la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la souveraineté populaire, comment elle s'articule avec le rôle des juges.
Également, quelle morale, quelle conduite on attend de nos élus ?
Quelle conduite ? Donc des questions, en effet, de philosophie morale, la question des juges, du statut des juges, de leur responsabilité éventuelle, etc. Enfin, ça pose 1000 questions qu'on va essayer de traiter, si je comprends bien, en 40 minutes.
Oui, alors Christophe De Vogde, vous êtes... connaisseur de la politique et aux Pays-Bas notamment. La dernière grande affaire, celle qui a occupé et qui occupe encore la scène médiatique aujourd'hui, il y a un rassemblement ce soir par exemple pour la démocratie pour dénoncer la réaction et les attaques contre les juges qui ont été faites après la condamnation de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est pas la condamnation en elle-même de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics qui a posé problème, ça a été l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. Comment est-ce que cette condamnation a été perçue aux Pays-Bas? Et est-ce que, je vous poserai la même question, Anna Bonaloumé, sur l'Italie, est-ce que cette condamnation a fait écho à des affaires politico-financières hollandaises?
Alors ça fait beaucoup de questions. En effet, enfin, aux Pays-Bas, je parle vraiment des Pays-Bas, mais je crois savoir que c'est à peu près partout pareil. C'est exactement comme en France. Ce qui pose le problème dans ce jugement, c'est l'exécution provisoire. Je rappelle d'ailleurs... c'était très frappant, non seulement au Rassemblement national, mais les observateurs juristes étaient en majorité, pensaient qu'il n'y aurait pas d'exécution provisoire en première instance. Donc c'est assez intéressant, et ça a été un peu une surprise aux Pays-Bas aussi, même si, comme partout, comme en France, on réagit en fonction de son biais de confirmation, comme on dit en rhétorique, c'est-à-dire de son biais partisan, contre ou pour, selon que l'on est de gauche, de droite, etc. Ou selon qu'on est aussi concerné par le sujet. C'est-à-dire, on voit bien la réaction de Mélenchon, par exemple, qui a été un peu dissonante.
Ou d'Éric Ciotti, pour continuer.
Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on est concerné par le sujet? Situation aussi du Premier ministre, puisque c'est la même affaire. Donc, si on oublie tous ces biais, on va dire, d'intérêt ou de passion, ce qui aux Pays-Bas, il y a eu une surprise quand même sur l'exécution provisoire, parce que la question de la liberté de l'électeur est fondamentale.
L'inéligibilité des élus en cas de corruption, manquement à la probité, détournement de fonds publics n'existe pas dans le droit hollandais.
Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Et la dernière grande affaire politico-financière, j'ai cherché à votre invitation. Elle est très ancienne en fait aux Pays-Bas. Je veux dire, importante. C'était la fameuse affaire Lockheed, qui était une affaire là en plus différente parce que c'est une affaire de corruption. Alors, je crois qu'il faut distinguer détournement de fonds publics, corruption, fraude, trafic d'influence, vous voyez, tout ça est assez complexe. Mais donc, aux Pays-Bas, il y a ce problème qui est le problème de l'expression libre du vote populaire, qui visiblement l'emporte dans les commentaires, même si, évidemment, la presse de gauche a été contre Marine Le Pen.
J'espère qu'on aura le temps dans cette émission de revenir sur cette tension que parfois s'opère entre les attentes vertueuses que l'on demande à nos élus et les attentes démocratiques. Anna Bonaloumé, comment est-ce que cette condamnation de Marine Le Pen a été perçue en Italie?
Il y a eu différentes réactions dans le paysage politique italien, et notamment au sein de la droite et de l'extrême droite. Donc la vice-présidente du Conseil italien, Matteo Salvini, qui est, rappelons-le, est le leader de la Ligue et un ancien allié de Marine Le Pen, qui partage d'ailleurs le même groupe parlementaire au Parlement européen. Il a qualifié le jugement de déclaration de guerre de la part de Bruxelles et il a publié un hashtag « Je suis avec Marine », donc « Je soutiens Marine ». Et donc il a affiché son soutien inconditionnel, tandis que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, elle a affiché une prudence institutionnelle plus marquée en disant que c'était pour ceux qui disons partagent les valeurs démocratiques, ce n'est pas un moment, il ne faut pas se réjouir de cette condamnation, et surtout parce que la France va être privée d'un représentant politique important et des électeurs vont être privés d'un représentant politique majeur. Et il y a la troisième réaction très intéressante a été celle du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui est leader de Forza Italia.
Parti
de Silvio Berlusconi.
Lui-même multi-condamné en matière d'atteinte à la probité.
Et lui, il a raffirmé sa position garantiste, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il faut qu'une personne est innocente jusqu'au troisième degré de jugement. Et d'ailleurs, il a également exprimé des doutes concernant l'usage du bracelet électronique, considérant qu'il n'y a pas de risque de fuite de la part de Marine Le Pen. Mais on voit dans ses réactions les différentes nuances de la part de la droite en Italie. Aussi, il y a eu un débat très fort autour des réactions, de l'usage des suites, des conséquences de ces décisions de justice, donc des condamnations de leaders, notamment de droite, dans le monde. Nous pensons notamment à Donald Trump aux États-Unis, mais aussi à Bolsonaro, l'enquête à l'égard de Bolsonaro au Brésil pour tentative d'attentat, et puis à l'égard du candidat d'extrême droite Georgescu en Roumanie, qui a été en fait arrêté et qui fait l'objet d'une enquête. Donc il y a toute une série de faits liés à la justice qui ont visé des personnalités de partis de droite qui posent des questions autour de conséquences politiques que ces actions peuvent avoir dans
ce sont pour les solidarités ou les réactions politiques. Est-ce que dans la société italienne, cette affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement National fait écho à des affaires politico-judiciaires italiennes?
Oui, alors il faut d'abord rappeler qu'au sein de la population italienne, il y a une forte sensibilité à l'égard des questions de corruption et de transparence, parce que nous avons eu en Italie un scandale très important dans les années 90, qui est le scandale Manipulite, qui a été une affaire géante. Ça a été l'affaire la plus importante de l'histoire d'après-guerre en Italie.
Emblématique de l'histoire politique italienne.
Qui a mis à jour un système de corruption structuré qui concernait des hommes politiques, des entrepreneurs et des administrateurs, et qui, à partir de ces moments-là, en fait, il y a l'histoire politique et le paysage politique est complètement bouleversé. Ceci permet d'ailleurs la naissance du parti de Berlusconi, Forza Italia, et son émergence. Et dans ces contextes-là, il y a un choc médiatique et judiciaire et social très très fort. Et tout ça mène à une série de tentatives de réforme de la justice pour assurer une forme de transparence au sein de la société. C'est qui a échoué à plusieurs reprises, mais il y a eu un cas emblématique, un tournant législatif qui a été la loi Severino en 2013, qui a été qui est comparable à la loi
Sapin 2 dont on parle beaucoup ces jours-ci
en France, c'est-à-dire que en fait ça a été le moyen législatif pour assurer la déchéance ou la l'inéligibilité des personnes condamnées en voie définitive en Italie. Et donc ça a été appliqué dans les cas de Berlusconi en 2013, qui a été condamné pour fraude fiscale. Ça a été la seule condamnation à laquelle il a fait face pendant toute son histoire judiciaire, qui est très très longue et très complexe. Il a fait face à plus de 30 procès dans son histoire politique. Et donc, à ces moments-là, le Sénat vote pour la déchéance de Berlusconi en tant que sénateur. Et la loi Severino, elle est appliquée à ces moments-là, justement. Cet écho, justement, aujourd'hui, du moment où Berlusconi voit appliquer la loi Severino à son cas. Et donc, il y a un débat aujourd'hui, d'ailleurs, qui est soulevé autour des changements qui peuvent être apportés à cette loi en Italie.
Patrick Lefasse, vous êtes, je le rappelle, président de Transparency International France. Transparency International qui publie chaque année son indice mondial de perception de la corruption. La dernière publication a eu lieu en février dernier. Un indice qui s'applique à 180 pays. Alors, on a beaucoup commenté le fait que la France avait perdu 5 points, qu'elle était désormais 25e dans ce classement. Et lorsque on zoome un petit peu sur le classement, on se rend compte que les pays d'Europe du Nord, majoritairement, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, l'Islande, l'Estonie, sont dans les 15 premiers à ce classement, et qu'en revanche, les pays d'Europe du Sud, qu'on l'appelle comme ça, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, les pays des Balkans, la France dans une position intermédiaire, eux sont plus bas dans ce classement. Est-ce qu'il y a une division? Alors d'abord, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que cet indice mondial de la perception? Comment est-ce que vous le calculez? Et est-ce qu'on pourrait diviser l'Europe en deux, entre une Europe au nord qui serait plus efficace du point de vue de la probité en politique, une Europe du Sud qui, elle, au contraire, pêcherait?
Alors c'est un indice de perception de la corruption, donc c'est pas un indice de détection de la corruption, donc c'est pas un indice de mesure de ce qui s'est passé au titre des condamnations.
Et c'est bien le problème, c'est que la corruption n'est pas quelque chose que l'on peut calculer.
Exactement, on ne peut pas le calculer, mais en revanche, ce sont des indices qui permettent de coter l'appréciation que les décideurs extérieurs, donc qu'ils soient du monde des affaires ou des décideurs publics, estiment concernant chacun des pays. Et c'est le secteur public qui est visé. Ça arrange bien le Danemark, puisque le Danemark, il a beaucoup d'affaires qui sont dans le secteur privé. Chacun a en tête Danske Bank, des opérations qui étaient quand même très, très, très manipulatoires. Mais c'est le secteur public qu'on vise. Donc cet indice, il a le mérite d'exister. C'est toute une série d'indices de base qui permettent d'appréhender quand même 180 pays. Et à chaque fois, pour la France, il y a 9 indicateurs. Pour d'autres pays, ça va jusqu'à 12 ou 13. Ce sont des données homogènes. Bon, ça nous permet de voir comment on évolue. Alors, pourquoi on réagit comme ça entre Europe du Nord et Europe du Sud? D'abord, il faut regarder l'Europe par rapport au reste du monde, et donc on se rassure plus tôt. Bon, donc ça, c'est quand même la chose absolument essentielle. On peut aussi se rassurer en pensant que les États-Unis sont derrière nous. Qu'il y a devant nous, effectivement, un certain nombre de pays, pas uniquement des pays européens, puisqu'on trouve Singapour et la Nouvelle-Zélande, mais des pays qui ont une culture de l'éthique très appuyée. Nous-mêmes, effectivement, en tant que latins, cette culture de l'éthique, on ne l'a pas chevillée au corps, nous sommes plus exubérants, appréhendons les conditions dans lesquelles il s'agit de faire face à un certain nombre d'accidents, et les affaires politico-judiciaires, évidemment, elles sont repérées en fonction de leur degré de médiatisation, et donc elles vont avoir une incidence très directe sur l'indice.
Anna Bonallumé, comment est-ce que vous expliquez que l'indice de perception de la corruption soit plus élevé en Italie que dans le nord de l'Europe, par exemple? Est-ce qu'il y a des questions morales sous-jacentes? Je me permets peut-être de citer notre camarade Antoine Garapon, qui était interviewé dans la revue du 1, partenaire de Questions du Soir du mercredi, justement revue du 1 consacrée à ces questions. Antoine Garapon rappelle que dans l'esprit des lois de Montesquieu, il y a trois sentiments moraux qui sont celui, en politique, celui de l'honneur, de la terreur et de la vertu. Alors, il parle évidemment des régimes des monarchies. On peut peut-être exclure la terreur de cette évolution. Mais est-ce que c'est un rapport à l'honneur et à la vertu qui serait l'indicateur de la pratique politique en Italie ou en Europe du Nord?
Il faut savoir qu'en tout cas en Italie, le monde politique entretient un lien avec une relation ambiguë avec la question morale, en fait, parce que de nombreux dirigeants s'y revendiquent à chaque fois depuis les manipulités, donc depuis le scandale des années 90, ces sujets sont souvent évoqués par les dirigeants politiques, et donc ils prônent souvent une révolution éthique où ils se positionnent comme nouveaux, et donc ils profitent de cette esprit dégagiste qui s'est installé en Italie et qui a d'ailleurs qui a fait que quelque chose comme le populisme s'installe dans le paysage politique, c'est-à-dire cette méfiance et cette tentative de prendre une forme de ressentiment à l'égard des élites corrompues et qui s'est installée en Italie durablement. Et donc il y a d'un côté cette tentative de raconter cette histoire de la nouveauté, de la rénovation du paysage politique, et notamment le mouvement 5 étoiles a été emblématique dans ce sens-là, parce que en 2010, autour de 2010, ce mouvement qui n'est pas un parti, qui se revendique en tant que mouvement, est né sur la base d'une promesse qui est celle d'apporter une forme de transparence et d'une nouveauté dans le paysage politique qui est corrompu par la caste, l'ensemble des hommes politiques qui ont profité du système et de manière...
La caste, littéralement la caste en français,
la caste, compréhensible. Voilà, et donc ils s'installent dans le paysage politique en exploitant cette question, la question de la corruption et de la transparence. Mais en Italie, il y a une forme de, c'est une forme d'indignation ponctuelle très forte, un choc accompagné par ces chocs médiatiques qui est lié aux affaires des uns et des autres, des différents hommes politiques. Mais ensuite, il y a une forme de lassitude et d'indifférence qui est l'attitude la plus courante dans le pays. C'est-à-dire que il y a une forme d'habitude à l'égard du fait qu'il y a une forme de clientélisme qui est acceptée. Peut-être il y a une question aussi de culture historique, des traditions religieuses qui est liée à la différence entre le christianisme, le catholicisme et le protestantisme. C'est-à-dire cette forte culture éthique du travail dans le protestantisme qui met en valeur l'individu en tant que responsable du succès de son travail et à travers donc son travail la possibilité de découvrir la présence de la grâce dans ce qu'il fait, tandis que dans le catholicisme il y a toujours la possibilité de recours à une forme de parole qui sauve, qui est la parole de l'intermédiaire de Dieu, qui est le prêtre qui peut donner le pardon libérer du péché du péché de corruption, notamment les chrétiens catholiques.
Christophe de Vogde.
Ah oui, c'est un sujet passionnant, très, très Montesquieu en effet, hein, la question des mœurs en fait, hein, qui est derrière l'esprit des lois. Derrière l'esprit des lois, il y a les mœurs, hein, c'est la grande perspective de Montesquieu. Alors, j'hésite toujours un petit peu à tomber dans des catégories trop faciles. Je ne suis pas persuadé que les Néerlandais soient tous d'une honnêteté absolument
exemplaire.
Mais le traitement de ces affaires est différent. On va dire que aux Pays-Bas, alors il y a en effet, il y a cette éthique personnelle weberienne, on va dire, hein, du protestantisme, mais il y a aussi le fait que vous avez un contrôle social sur les questions d'éthique qui est beaucoup plus fort. Et inversement, je dirais que dans les pays latins, notamment en France, surtout en France, on va passer plus par le contrôle législatif, par la norme justement, hein, d'où tout notre arsenal que vous avez évoqué. Donc il y a plutôt à l'idée de corruption ou d'atteinte à la probité, pour être plus général, il y aura l'idée que c'est la société qui va condamner plus que l'institution judiciaire. Et ce qui est vrai, c'est que aux Pays-Bas, dans l'expérience, on n'a pas de cas Berlusconi, c'est-à-dire que on ne se remet pas d'une atteinte à la probité. C'est la fin de votre carrière politique, même si un juge n'est pas passé par là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le contrôle social et la condamnation morale vont remplacer plutôt la condamnation judiciaire.
C'est très modeste, hein. C'est un rendez-vous pour réunir des gens autour d'une indignation que j'avais, qui a été initiée par l'affaire Fillon, mais qui concerne pas simplement Monsieur Fillon, hein. Ça concerne beaucoup de gens dans la classe politique qui manifestement peuvent pervertir des intérêts publics en intérêts privés.
Je milite contre la corruption de nos élus. Je vais voter, mais maintenant je vais voter blanc. On comprendra qu'il y a un problème dans le système.
Je veux qu'il n'y ait plus que deux mandats comme pour les présidents, qu'on doit déclarer ses revenus avant les élections, pendant et après, pendant 2 ans, pour voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
L'idée, c'est d'obliger les élus à mettre en ligne, à publier sur un site, les justificatifs de dépenses. Il nous semble qu'il faut de la transparence et du contrôle citoyen dans les dépenses des deniers publics, et notamment l'argent qu'on donne aux élus pour accomplir leur mandat.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Vous êtes bien sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour cette première partie de questions du soir consacrée aux affaires politico-judiciaires et à la France en regard des autres pays européens en compagnie de Patrick Lefasse, Christophe De Vogde et Anna Bonaloumé. Patrick Lefasse, Christophe De Vogde nous parlait à l'instant de la culture politique aux Pays-Bas qui faisait qu'une simple mise en cause dans une affaire de probité ou une simple condamnation dans une affaire de probité suffisait à exclure un élu, un politique du champ médiatique, du champ public. Il y a un cas en France qui est particulièrement frappant, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a plusieurs procès à son encontre, et je le disais en introduction, le procès de l'éventuel financement libyen de sa campagne électorale s'est clos hier. On attend le jugement pour le 25 septembre prochain, et pourtant les crimes qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont d'une extrême gravité. Pourtant Nicolas Sarkozy n'a pas disparu de l'espace public en France, médiatique, politique. Il a même été parfois décrit par la presse comme une sorte de conseiller informel d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'on peut, au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce cas-là sur notre rapport en France à l'exemplarité en politique ?
D'abord, le fait qu'un ancien président de la République soit mis dans un procès comme prévenu, c'est quand même la caractéristique de l'indépendance de la justice, le travail qui a été fait. Donc ce procès, il a duré 2 mois et demi, avec des avocats qui se sont relayés hier pendant 5 heures de rang. Donc, disons, l'ensemble du travail de la justice a fait son œuvre.
Je ne parle pas d'un point de vue judiciaire, mais vraiment d'un point de vue politique, de l'ordre de l'espace, lors du débat politique, c'est-à-dire, Anna Bonaloumé, je crois que vous devez partir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, je vous en prie. C'est plutôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas été banni pour autant.
Oui, mais parce que...
Comme ce serait le cas aux Pays-Bas, si je comprends ce que voulait dire Christophe.
Oui, ça resterait à prouver, hein, parce que, disons que, si on regarde le Royaume-Uni, il y a eu effectivement des affaires concernant par exemple Boris Johnson. Boris Johnson, il est toujours dans la course, il est toujours aussi populaire. Voilà, donc je pense qu'il faut nuancer un peu ces propos. Nous sommes très attachés en fait à la présomption d'innocence, donc tant qu'il n'a pas été condamné définitivement, eh bien, il est présumé innocent, et il a des avocats qui utilisent toutes les voies de recours à leur disposition pour pouvoir défendre la cause. Ils ont redit qu'il n'y avait rien dans le dossier de l'accusation. L'opinion publique, elle, qu'est-ce qu'elle peut croire de ça? Eh bien, elle croit que il y a une attention qui est prêtée au fait que les puissants sont soumis aux mêmes lois que les personnes défavorisées. Donc il y a clairement une volonté d'égalité devant la loi. Et ça, je pense que c'est un élément très, très, très important. Après, comme nous sommes dans un principe de présomption d'innocence, bah, tant que la personne n'est pas condamnée définitivement, si elle veut exercer ses droits, parler dans les médias, c'est son droit le plus strict. Il se trouve en plus que l'ancien président de la République, il a des moyens de la République qui sont mis à sa disposition.
Est-ce qu'il y a aussi la question du temps judiciaire, c'est-à-dire du temps du traitement des affaires politico-financières, qui est très long, parce qu'effectivement ce sont des personnes, comme vous le disiez, qui utilisent tous les outils que permet l'état de droit pour se défendre, et qui parfois distinguent presque dans la perception le temps du crime supposé et le temps du jugement de ce crime.
Oui, c'est un temps long, mais il faut s'interroger. Pourquoi c'est un temps long? Il y a évidemment le fait que dans un état de droit, les droits de la défense sont sacrés. Il y a en plus des procédures qui peuvent retarder les échéances. Par exemple, contester tel ou tel acte de procédure devant la chambre de l'instruction, déposer des questions prioritaires de constitutionnalité, déposer différentes actions de recours qui vont retarder l'échéance. Mais ceci, c'est un contexte qui fait que, parallèlement, la justice, malheureusement, elle ne dispose pas de moyens suffisants pour conduire rapidement des instructions. Là, on a appris en fin de semaine dernière que le dossier concernant le clan Bongo, l'instruction était enfin terminée, il s'en est écoulé plus de 14 ans, il y avait un juge d'instruction, plusieurs juges d'instruction qui se sont relayés dans le temps, donc c'est effectivement une procédure très longue. Si c'est long, c'est aussi à se poser la question, est-ce qu'on met suffisamment de moyens? Il y en a des moyens qui sont beaucoup plus importants dans les autres pays, notamment en Allemagne, et donc ça c'est au final un enjeu par rapport à la notion de lenteur de la justice.
Christophe Deva, vous êtes d'accord avec cette idée? On manque de moyens pour lutter contre les crimes de atteinte à la probité en politique?
Alors, je voudrais quand même nuancer sur deux, trois choses. D'abord, je crois que l'expression de crime me paraît un peu excessive dans la matière, puisqu'on est en correctionnel, donc ce sont des délits.
On n'est pas aux assises,
le mot est un peu fort. D'une part, d'autre part, alors, en ce qui concerne l'affaire Sarkozy, on ne peut pas dire que la justice ait manqué de moyens. Le PNF a déployé des moyens colossaux dans l'affaire.
On a tous peut-être été marqués ces dernières semaines par le policier qui est venu témoigner qu'il ne pouvait concéder à cette affaire immense qu'un tiers de son emploi du temps.
Je parle du parquet, hein, des jugements d'instruction. Ils sont allés très loin. Et ils ont dépensé énormément de moyens dans les poursuites. Même si le diagnostic général sur la justice est le même. Donc, juste pour apporter des nuances. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est le rapport très ambigu des Français à ces situations. Et vous le voyez très bien d'ailleurs dans les répercussions, dans les sondages, après l'affaire, la condamnation de Marine Le Pen. Vous avez à la fois, les gens sont partagés, alors j'oublie encore une fois le biais partisan, hein, entre ce que vous avez dit très justement, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une indépendance et une égalité devant la loi, et aussi, il faut le reconnaître, un certain plaisir, on va dire, je dirais plutôt égalitariste plutôt qu'égalitaire, à voir tomber les puissants. Et là, qui est quelque chose qui est lié à notre tempérament, on va dire, révolutionnaire historiquement. C'est-à-dire qu'on aime bien voir, pas seulement d'ailleurs en politique, hein, on aime bien voir, c'est un peu le côté... si vous voulez, 1992-93. C'est-à-dire qu'on a cette sensibilité-là de se réjouir devant la chute d'un puissant, quelle que soit sa préférence politique.
La Constitution, les lois de la République française vouent la vie politique à la misère ou à la fraude. C'est une donnée de départ. Et c'est un choix dangereux, car c'est un choix qui emporte avec lui la logique de la concussion. Et je pense qu'il est juste de poser le problème. Je ne sais pas comment il sera traité, il est très délicat. Je veux dire qu'au moins dans l'intention, sinon dans les modalités, l'idée du président de la République n'est pas malsaine. C'est une idée d'assainissement.
En fait, c'est des données qui sont difficiles à établir. L'Agence française anticorruption, qui est une agence de l'État, est en train de travailler sur ce sujet-là. Le phénomène de corruption est protéiforme. On le retrouve dans le code pénal, mais pas uniquement dans le code pénal, dans le code électoral, dans des lois qui n'ont jamais été consolidées et codifiées. Donc effectivement, il faut faire un travail de recensement. Justement, l'Agence française anticorruption l'a fait. En décembre, ils ont sorti une note d'analyse en listant en tout cas les principales infractions, celles qu'on retrouve dans la section 3 du code pénal des manquements au devoir de probité. Et quand on regarde le baromètre de la confiance qui a été fait par le CEVIPOF, on voit que progressivement, l'aspiration des Français, en tout cas ceux qui sont sondés en l'occurrence, à un régime plus autoritaire, donc moins démocratique, est croissante. Donc il y a pas un lien de corrélation, il y a un lien de causalité directe.
Nous venons d'entendre deux voix, d'abord celle de Michel Rocard, qui parle de la misère ou la fraude et qui, d'une certaine manière, explique la tendance à la fraude en politique par le manque de moyens, ce qui a donné lieu ensuite à des lois de financement public des partis. Et puis, celle de Béatrice Guimond qui met en regard à la fois les phénomènes de corruption et la tendance au populisme. Est-ce que on a entendu aussi ces réactions-là suite à la condamnation de Marine Le Pen, le risque que cette condamnation favorise le populisme, favorise une forme de trumpisme à la française? Est-ce que, alors c'est une question un peu provocante que je vous pose, Patrick Lefasse, est-ce que cette volonté de transparence, ces affaires politico-financières provoquent de manière paradoxale, favorisent de manière paradoxale le populisme en politique?
Moi, je pense que la réponse est non. La transparence, elle était souhaitée par quand même une large majorité de l'opinion publique face aux mensonges de Jérôme Cahuzac par rapport à son compte en Suisse. L'obligation maintenant qui est faite de déclaration d'intérêt, de déclaration patrimoniale, va effectivement dans le bon sens, et la loi, elle a été très majoritairement votée. Donc la transparence, elle est souhaitable. En plus, dans un pays qui est très égalitaire, il me semble que c'est un élément de référence. Alors après, le lien entre misère et fraude, c'est vrai que les conditions de précarité d'une partie croissante de la population peuvent conduire certains à céder aux tentations. Vous avez récemment une greffière qui a été arrêtée dans le cadre d'un trafic de drogue à Marseille. Vous avez des dockers qui se livrent malheureusement sous la contrainte d'être complices de trafic de drogue. Tous ces éléments-là, c'est souvent par rapport aux questions de salaire et de précarité.
Christophe De Vogt, sur ce lien entre paradoxal entre transparence et populisme.
Oui, moi, autant je suis là-bas, je suis un grand admirateur de Transparency International, donc ça souhaite être très clair. Mais il y a toujours un risque, évidemment, parce que trop de transparence tue la transparence. Je veux dire par là que justement l'empilement des lois, des normes, etc., qui est quand même très français, fait que il se produirait une prochaine affaire qui ne tomberait pas exactement dans le coup des lois, on ferait une loi de plus. Et il y a donc une course en avant vers la normativité. Moi, je préférerais plutôt qu'on laisse aux juges leur pouvoir d'appréciation, qui est, comme vous le savez, fondamental, et alors qu'on a déjà beaucoup de dispositions. Par exemple, je prends ce très simple exemple. On a beaucoup dit, à tort, que Marine Le Pen avait été condamnée en fonction de la loi Sapin 2. Ben c'est faux, le jugement...
C'est en fonction d'une oui. d'une loi de 1992.
Exactement. Donc, vous voyez, ce que le juge avait les moyens juridiques, il l'a démontré, hein, de la condamner sans la loi Sapin 2.
Alors, vous parlez de...
Alors ça, c'est une chose qui est importante.
Pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, et je voudrais pas qu'on reparle trop de cette affaire Le Pen qui beaucoup commentée. Vous parlez de course en avant législative. Alors, comment, pour revenir à cette comparaison européenne dans laquelle nous nous trouvions, est-ce que ça doit se jouer au niveau européen? L'Union européenne elle-même a été touchée par des affaires. Il y a le Qatargate, qui est vraiment...
Il y a le Qatargate.
Il y a encore le Qatargate.
Ce n'est pas fini.
Alors, est-ce que ça doit se jouer au niveau européen? Il y a une proposition de directive depuis mai 2023 qui est encore en discussion entre le Conseil et le Parlement européen. Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce qu'il faut normaliser les lois sur la transparence de la vie publique en Europe?
Et je ne suis pas sûr. Il peut y avoir évidemment intérêt à avoir l'équivalent de la HATVP partout. Ça permettra des échanges d'informations. Par exemple, pour l'encadrement du lobbying, qui est une des fonctions importantes de la haute autorité, mais une législation qui conduirait à ce que on s'aligne sur le moins 10 ans poserait incontestablement des problèmes. Nous avons des acquis dans la loi Sapin 2, en particulier la responsabilité pénale de la personne morale, qui n'existe pas en Allemagne. Si on s'aligne sur le moins 10 ans, il est clair que ça voudra dire que tout le travail qui a été fait par le parquet national financier sur ces 10 premières années et qui a conduit à faire rentrer dans les caisses du Trésor public plus de 12 milliards d'euros dans le cadre de conventions judiciaires d'intérêt public, bah, tout ça se risquerait de disparaître. Et donc, il ne faut pas que la coordination ou l'harmonisation européenne, ce soit le rocher de Sisyphe.
Et donc la France n'est pas finalement la mauvaise élève de l'Europe, si on vous suit, Patrick Lefasse.
Elle est, sur le plan législatif, parmi les meilleurs élèves. Nous avons transposé, quand il y a des directives, on les transpose. On les transpose plus vite que la plupart des pays. La loi sur Wasserman, qui transposait la directive sur les lanceurs d'alerte, elle a été transposée très très vite. Donc nous sommes les bons élèves, oui.
Christophe De Vogt.
Oui, mais malheureusement, la popularité de la justice n'en est pas meilleure en France. C'est une institution extrêmement contestée et critiquée et très peu populaire. Beaucoup, beaucoup moins populaire que justement dans les pays d'Europe du Nord. Donc je ne suis pas certain que... l'arsenal législatif ne fait pas tout. Et qu'il y a, derrière, dans l'appréhension populaire de ces questions, cette ambiguïté, encore une fois. Heureux de voir que la loi s'applique pour des gens puissants, mais en même temps, une défiance qui ne fait que croître vis-à-vis de la justice française.
Merci beaucoup, Christophe De Vogue. Je rappelle, vous êtes historien spécialiste de rhétorique politique, président du Conseil scientifique d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique. Merci à vous également, Patrick Lefas, d'être venu débattre, président de Transparency International France. Et merci à Anna Bonallumé qui nous a fait l'honneur de son passage dans cette émission, qui est partie malheureusement journaliste, docteur en philosophie et autrice d'Un mois avec un populiste, paru en 2022 aux éditions Pauvert. Merci, c'est la fin de cette première partie de questions du soir. Merci également à Mathias Meji pour la préparation. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes seulement après le point info pour la deuxième partie de questions de soir qui sera consacrée aux Mayas.